podcast RFHT.
Bonjour, bienvenue sur ce nouveau podcast RFHT consacré au PTT et à la grossesse. Je vous présente Éric Rondeau.
Bonjour.
Qui est donc néphrologue et très impliqué depuis ses tout débuts dans la prise en charge des PTT. Et en ce qui me concerne, je suis le docteur Galissier, immuno-hémato. Et je travaille donc à Saint-Louis et nous faisons tous les deux partie du réseau Centre Maladies Rares, Microangiopathie Thrombotique, Éric étant plus particulièrement impliqué dans ces complications néphrologiques. PTT et grossesse, il est effectivement important d'en parler car le PTT touche majoritairement des femmes dont la moitié sont en âge de procréer. Et la grossesse, de par les modifications immunologiques et de l'hémostase qui l'accompagne, est un facteur de risque de développer une microangiopathie thrombotique de type PTT. Et de fait, 5 à 10% des PTT surviennent au cours ou au décours d'une grossesse. Le PTT est néanmoins bien plus rare que les autres causes de microangiopathie thrombotique spécifiques à la grossesse, ce qui en rend du coup le diagnostic d'autant plus difficile. Alors Éric, comment reconnaître un PTT chez une femme enceinte ?
Alors, pour faire le diagnostic, il faut d'abord faire un diagnostic de la microangiopathie thrombotique. Donc, je rappelle brièvement l'anémie hémolytique mécanique avec schizocyte, la thrombopénie sans CIVD et une atteinte viscérale plus ou moins marquée, mais qui prédomine souvent sur le système nerveux central avec les céphalées, le flou visuel, le déficit moteur fluctuant ou des convulsions. Et puis, en identifier le mécanisme, à savoir doser l'activité ADAMTS13, qui revient effondrée, inférieure à 10%. Et souvent, une recherche d'anticorps anti-ADAMTS13 est aussi effectuée.
Cela paraît facile, mais en pratique, est-ce aussi simple ?
Alors non, bien sûr. Le diagnostic différentiel des microangiopathies thrombotiques chez la femme enceinte est assez délicat. Et schématiquement, on peut essayer de distinguer les maths spécifiques de la grossesse, qu'on ne voit que chez les femmes enceintes, et en général, après la 20e semaine d'aménorrhée. Je vais citer la prééclampsie, compliquée de HELLP syndrome. HELLP syndrome, c'est pour hémolyse, élévation des enzymes hépatiques et thrombopénie, avec hypertension artérielle et protéinurie souvent, et puis une hémolyse, une thrombopénie et une cytolyse hépatique qui fait la caractéristique du tableau. Le deuxième cas à citer, c'est la stéatose aiguë gravidique qui est souvent associée à la prééclampsie et à un ictère intense, mais qui est une maladie beaucoup plus rare. Et puis enfin, les hémorragies du postpartum et les transfusions massives où on a fait jouer un rôle aux antifibrinolytiques dans la survenue d'une microangiopathie thrombotique. Alors, à côté de ces maths spécifiques de la grossesse, il y a des maths qui sont déclenchées par la grossesse ou dans le postpartum, mais qui peuvent se voir en dehors de la grossesse également. Et je vais citer brièvement le syndrome hémolytique urémique atypique, avec une atteinte rénale prédominante, insuffisance rénale, protéinurie, hypertension, les maladies auto-immunes telles que le lupus ou le syndrome des antiphospholipides, où là encore l'atteinte rénale est volontiers sévère. Et puis enfin, le PTT qui nous intéresse aujourd'hui. PTT qui est soit connu avant la grossesse, qui a été surveillé et qui fait malgré tout une poussée au cours de la grossesse, ou bien PTT qui n'était pas connu antérieurement, qui est révélé par la grossesse, et c'est là, évidemment, que les difficultés diagnostiques sont les plus grandes avec les autres microangiopathies que j'ai citées précédemment.
Oui, donc ça fait un éventail assez large et ces différentes microangiopathies thrombotiques ont-elles la même incidence au cours de la grossesse ?
Alors, pas du tout. La prééclampsie complique environ une grossesse sur 20 chez la primipare, à peu près. Hein. C'est donc relativement fréquent. En revanche, le HELLP syndrome, c'est seulement un cas sur 1000 des grossesses. Et le PTT au cours de la grossesse, c'est seulement un cas sur 200 000 grossesses. Donc, on est vraiment dans un ordre de grandeur complètement différent. Le PTT est beaucoup plus rare, mais il faut y penser. Et donc, il faut être très vigilant et ne pas attribuer une MAT, un HELLP syndrome, trop rapidement. Il faut quand même songer à évoquer le diagnostic de PTT.
Et alors, pour nous aider, est-ce que ces différentes microangiopathies surviennent au même moment de la grossesse ?
Alors, pas tout à fait. On a pu observer que le PTT apparaît éventuellement donc, pendant ou après la grossesse, mais dans 80% des cas, il survient avant l'accouchement et volontiers au premier ou deuxième trimestre de grossesse, alors que le SHU, dont on a parlé précédemment, survient, lui, plutôt en fin de grossesse ou dans le postpartum. Les MAT qui sont spécifiques de la grossesse, comme la prééclampsie et le HELLP, se voient après 20 semaines d'aménorrhée, c'est dans la définition, et volontiers dans le dernier trimestre de la grossesse, voire même au moment de l'accouchement. Donc le PTT précoce au cours de la grossesse se complique souvent de fausses couches spontanées ou de mort fœtale in utero, et un PTT tardif, proche du terme, va poser plus de problèmes diagnostiques et le dosage d'ADAMTS13 doit être fait devant toute MAT chez la femme enceinte.
Très bien. Et y a-t-il des signes distinctifs qui peuvent orienter vers un PTT devant une micro-angiopathie de la grossesse ?
Alors, schématiquement, on peut retenir que l'absence d'hypertension artérielle et d'atteinte rénale va être très en faveur d'un PTT. Les autres causes de MAT dont j'ai parlé étant volontiers associées à une hypertension, une protéinurie, une insuffisance rénale. Pour autant, on sait qu'il y a des tableaux trompeurs et que des PTT peuvent parfois s'associer aussi à des phénomènes d'hypertension artérielle ou de protéinurie. Donc il faut être très vigilant, il n'y a pas de critère à 100% distinctif. De même, l'atteinte hépatique, elle est relativement rare au cours du PTT, même si elle n'est pas impossible à observer. Donc on peut s'orienter sur ces petits signes-là, mais parfois ça n'est pas suffisant, il faut songer vraiment à faire le dosage de la ADAMTS13.
Et en ce qui concerne ces PTT, sont-ils toujours de mécanismes auto-immuns au cours de la grossesse ?
Alors en fait, non. Ils peuvent être auto-immuns, c'est environ 60% des cas. Mais ça peut être aussi des PTT d'origine génétique avec un déficit complet en ADAMTS13, qu'il s'agisse donc d'un variant homozygote ou d'un hétérozygote composite. Donc il s'agit du syndrome d'Upshaw-Schulman. Et cette forme-là, à révélation tardive au cours de la grossesse, est reconnue, mais depuis peu de temps finalement, et elle montre que certaines femmes peuvent vivre sans symptômes jusqu'à l'âge adulte en ayant un déficit sévère en ADAMTS13 et que celui-ci ne va se révéler qu'à l'occasion de la grossesse. Donc on voit qu'on a des particularités diagnostiques et aussi des difficultés diagnostiques. Mais il y a d'autres problèmes, et notamment des problèmes thérapeutiques. Et Lionel, j'aimerais bien que tu nous éclaires un petit peu ces différents points, et notamment les modalités de prise en charge du PTT sont-elles différentes pendant la grossesse ?
Effectivement, tu as raison, Eric, pas tout à fait. Comme tu le sais, en dehors de la grossesse, l'ajout systématique du rituximab et du caplacizumab, c'est... toutes dernières années, en sus des échanges plasmatiques et des corticoïdes qui sont le traitement de référence, a permis d'importants progrès dans la prise en charge du PTT auto-immun. Néanmoins, ces deux biothérapies, le rituximab et le caplacizumab, ne sont aujourd'hui pas autorisées officiellement au cours de la grossesse. En effet, elles ont toutes les deux un passage transplacentaire. Le traitement repose donc en première intention sur les échanges plasmatiques et les corticoïdes. Et s'il s'agit d'un syndrome du Upshaw-Schulman, la prise en charge repose, comme en dehors de la grossesse, sur des apports en ADAMTS13 par le biais de plasma, mais les besoins sont plus importants qu'en dehors de la grossesse. Donc le problème est surtout pour ces PTT auto-immuns, pour lesquels nous avons deux biothérapies qui sont aujourd'hui théoriquement non autorisées pendant la grossesse.
D'accord, très bien, mais a-t-on quand même des données sur ces biothérapies au cours de la grossesse ?
Alors, sur le rituximab, on a quand même des données assez nombreuses dans le cadre des hémopathies ou d'autres maladies auto-immunes. Ces données sont globalement rassurantes, avec probablement très peu ou pas de malformations ou d'avortements attribuables à ce traitement. Il faut toutefois noter qu'il induit des anomalies immunologiques néonatales lorsqu'il est administré pendant la grossesse, avec chez le nouveau-né une lymphopénie B et une difficulté à monter ses gamma-globulines. Ces anomalies sont néanmoins régressives. Il n'y a pas de complications qui sont aujourd'hui, qui ont aujourd'hui été rapportées à ces anomalies. On n'a pas de données à très long terme. Les données publiées sur le caplacizumab sont vraiment très parcellaires. Elles permettent de confirmer qu'il y a un passage transplacentaire, mais elles ne donnent guère d'indications sur la tolérance néonatale du traitement ou le risque d'hémorragie de la délivrance, qui est un risque théorique sous caplacizumab.
Ok. Est-ce qu'il y a des alternatives à ces traitements utilisables pendant la grossesse?
Alors, tu as raison. En ce qui concerne le rituximab, on peut discuter d'utiliser d'autres immunosuppresseurs qu'on utilise en deuxième ligne habituellement en dehors de la grossesse, qui sont l'azathioprine ou la cyclosporine, qui toutes les deux sont administrables sans difficulté pendant la grossesse. Leur efficacité est toutefois plus lente et moins constante que celle du rituximab. Pour le caplacizumab, il n'y a aujourd'hui pas d'alternative à ce traitement. Et si le PTT est sévère ou ne répond pas au traitement simple après 48 heures d'échange plasmatique et de corticoïdes, l'intensification du traitement doit, à mon sens, être discutée avec les centres experts que nous avons la chance d'avoir en France grâce au réseau microangiopathie thrombotique. Et bien sûr, la décision sera alors partagée avec ta patiente après une information claire, loyale et adaptée, comme cela est habituellement le cas.
Ok. Alors, autre question qui se pose quand même au cours de la grossesse, c'est faut-il toujours envisager de déclencher l'accouchement?
Alors, tout dépend du terme, des signes de souffrance néonatale et de l'évolution du PTT sous traitement. Mais le principal message, c'est qu'à la différence des micro-angiopathies thrombotiques spécifiques de la grossesse, si l'évolution du PTT est favorable sous traitement et en l'absence de souffrance fœtale, la grossesse peut être poursuivie jusqu'à maturation pulmonaire fœtale. Ça nécessite néanmoins de poursuivre les apports de plasma, souvent sous la forme d'échanges plasmatiques pour les PTT auto-immuns, et une immunosuppression adaptée en cas de forme auto-immune. Les situations sont néanmoins le plus souvent complexes et la décision de poursuivre ou non la grossesse est le fruit d'une collaboration étroite entre les obstétriciens, les réanimateurs adultes et néonataux et l'équipe en charge du PTT, bien sûr.
Très bien. Et dans ces cas-là, est-ce qu'on peut avoir une idée du devenir du nouveau-né?
Alors, tu en as déjà un peu parlé, mais effectivement, lorsque le PTT survient pendant le premier ou le second trimestre, la grossesse se solde malheureusement dans la presque totalité des cas par une mort fœtale in utero, probablement secondaire à l'ischémie placentaire. Au cours du troisième trimestre, le pronostic est bien meilleur, et la majorité des grossesses permettront la délivrance d'un enfant vivant, parfois prématuré. Le pronostic est d'autant meilleur qu'on s'approche du terme. Dans les formes auto-immunes, il n'y a, à ma connaissance, pas de description de PTT néonatal par transmission des auto-anticorps maternels. Les enfants de patients atteints de syndrome du Pio-Schulman sont porteurs sains, quant à eux, et puisqu'il s'agit d'une transmission génétique autosomique récessive, et donc ils n'auront pas de PTT néonatal.
Très bien. Est-ce qu'on peut aussi discuter et prévenir la femme d'un risque de récidive au cours d'une prochaine grossesse?
Oui, tu as raison, le risque existe. Il est très corrélé au taux d'activité de l'ADAMS 13. Si celui-ci est inférieur à 20% en début de grossesse, le risque est majeur et la récidive quasi constante. Cela est aussi vrai pour les patientes qui envisagent une grossesse avec un antécédent de PTT hors grossesse, de PTT auto-immun en particulier. Le message à délivrer aux patientes est donc assez clair. Il faut discuter avec votre médecin spécialiste du PTT de vos projets de grossesse.
Alors, on en discute, c'est bien, mais est-ce qu'on peut lui indiquer des moyens d'éviter la récidive pendant la grossesse ultérieure?
Oui, il y a des moyens et assez efficaces maintenant. L'idée, c'est de normaliser, de surveiller l'activité de la dame stress avant et tout au long de la grossesse. En cas de syndrome du Pio-Schulman, la substitution intraveineuse en plasma sera adaptée au taux d'ADAMS 13 et progressivement augmentée à mesure que l'on se rapproche du terme. S'il s'agit d'un PTT auto-immun, un contrôle d'ADAMS 13 avant la conception est primordial. Si l'ADAMS 13 est inférieur à 20%, il faudra proposer un traitement préemptif, le plus souvent par rituximab, pour normaliser l'activité avant la grossesse. Le feu vert pour la grossesse pourra alors être donné après cette normalisation, au mieux en attendant 6 mois après le rituximab pour éviter les anomalies immunologiques néonatales dont on a parlé. Bien sûr, il faudra surveiller l'activité d'ADAMS 13 tout au long de la grossesse, et d'autant plus fréquemment qu'on s'approche du terme, pour intervenir en cas de diminution importante avant la survenue d'un événement clinique. Cette stratégie est très efficace et permet maintenant d'envisager beaucoup plus sereinement une grossesse chez ces patients. C'est un énorme progrès qu'on a réalisé ces dernières années.
Eh bien, merci pour toutes ces précisions. Voilà.
Je crois qu'on a fait un tour assez exhaustif de la problématique que posent ces PTT au cours de la grossesse. Et je pense que vous retrouverez d'autres collègues pour d'autres actualités RFHT.
Podcast RFHT.